Tout le monde y passe. Le face-à-face.
Quand un groupe de musique profite du téléchargement illégal, ce groupe c'est Iron Maiden, un groupe britannique de métal. Voici juste pour vous quelques mesures d'une chanson phare de la formation musicale. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The feel the sounds, the times begins. But on this battlefield, no one wins. The smell of earth and smoke and horses. Voilà, ce n'est pas tous les jours que vous entendez ce type de musique sur la première. Les membres d'Iron Maiden ont donc décidé d'organiser leur tournée en fonction des villes où les téléchargements illégaux de leurs morceaux sont les plus importants. Alors s'agit-il d'une bonne stratégie ? Nous en débattons ce matin avec Fred Colantonio. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous êtes spécialiste du web et puis avec nous également Thierry Coljon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste musical au journal Le Soir. Alors, est-ce que cette tactique, c'est la bonne réponse face au téléchargement illégal ? Fred Colantonio d'abord.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un flou sur la véracité de l'affaire. Hein. Donc, qui avait annoncé que Iron Maiden effectivement avait suivi l'origine des téléchargements pour s'y produire, a présenté ses excuses quelques jours plus tard en disant que finalement il n'y avait pas de lien spécifique entre l'analyse et le fait qu'Iron Maiden irait jouer là-bas. Ceci dit, en tant que fan d'Iron Maiden, pourrait éventuellement prendre leur défense. Mais pour répondre à la question sur la stratégie, je pense que c'est assez intéressant comme évolution des mentalités. Si on compare à il y a environ 13 ou 14 ans, où on était en pleine affaire Napster, là, hein, donc sur les premiers téléchargements, et où l'industrie musicale affirmait haut et fort que c'était la mort de la création, la mort des artistes, on est environ 15 ans plus tard, et on voit que manifestement c'est pas le cas, surtout quand il y a des idées peut-être un peu créatives comme celle-là pour continuer à se produire.
Pour vous aussi, Thierry Coljon, cette affaire Iron Maiden, c'est l'illustration d'une évolution des mentalités sur le champ musical.
Tout à fait, oui. Mais on s'en rend compte déjà depuis plusieurs années que les groupes, s'ils ont qu'un seul intérêt en ce moment, c'est de tourner le plus possible un peu partout. Et c'est comme ça que ça se fait d'ailleurs. Maintenant, ils ont des grosses agences mondiales comme Live Nation, et dont le but, c'est de les placer vraiment dans les nouveaux marchés, l'Est, mais toujours à l'Ouest. On se rend compte maintenant, même en Belgique, pour ne prendre que la Belgique, la plupart des groupes nous viennent d'abord au printemps dans une salle moyenne, à Bébota, ils reviennent au festival d'été, et si tout marche bien, ils reviennent une troisième fois en automne dans une salle plus grande, genre Forêt ou Sport Palais, si ça circule bien. Donc voilà, à des moments où il y a moins d'intermédiaires et où ils gagnent plus, vu qu'ils gagnent moins sur les disques, puisque...
Donc clairement, aujourd'hui, sortir un album, ça ne suffit plus pour faire vivre un artiste.
C'est une forme de promotion d'une tournée. Je veux dire, maintenant, sortir un disque, ça coûte cher malgré tout. On le fait parce qu'on l'en vend encore un petit peu lors des concerts, on en vend sur le net, en numérique, on en vend encore en magasin. N'oublions pas malgré tout que le CD se vend encore, les chiffres d'affaires en Belgique, c'est quand même plus de 70%. Et le numérique étant, qu'on disait en haut, c'est en train de se tasser, comme on disait encore ce matin. Donc, et en plus, le numérique rapporte très peu aux artistes. C'est encore très flou tout ça. Mais les artistes, non, s'ils veulent vivre de leur musique, doivent tourner en permanence. Donc la seule exception, c'est Françoise Hardy, qui est la seule qui ne se produit pas sur scène, mais à son âge, elle peut se le permettre. Mais non, les jeunes artistes, même dans la techno, alors qu'avant, on ne tournait pas tellement en techno, maintenant, tous, ils ont des festivals comme Tomorrowland spécialisés pour eux. Donc maintenant, tous les artistes professionnels, belges ou autres, sont obligés de tourner s'ils veulent en vivre.
Et que pensez-vous, Thierry Coljon, de cette stratégie signée Iron Maiden ?
Je ne sais pas si c'est une stratégie, à mon avis, ils s'en sont rendus compte après, parce qu'il est très difficile de voir où on est piraté. Oui, on peut faire des sondages. C'est vrai qu'en Afrique, en Amérique latine, ils sont des gros marchés du piratage, en cassette ou même maintenant avec des clés USB. On n'arrive pas à quantifier le téléchargement illégal. C'est très flou. On se dit là pour le moment qu'on les télécharge un peu moins illégalement au profit du streaming. Parce que le streaming, c'est encore plus facile d'accès. On a l'impression que c'est pas illégal. On n'a même pas besoin d'en prendre un abonnement premium. On a un peu de pub, mais c'est pas grave, on écoute les morceaux qu'on aime.
Le streaming, c'est écouter sans télécharger.
Voilà, c'est ça. Soit gratuit si on n'est pas gêné par la pub, soit payant si on prie un petit...
comme Deezer, Spotify par exemple.
Tout, ouais, ils tous le font. Il y a Deezer, Spotify, même iTunes a lancé sa radio maintenant, Google a lancé Google Play Music avec des abonnements pas chers ou gratuits. Et donc, à partir du moment où les nouvelles générations se rendent compte, n'ont pas besoin ou l'envie de posséder le disque, posséder une musique, bah alors ils l'écoutent sur leur GSM bien souvent.
Fred Colantonio, c'est compliqué d'obtenir des chiffres sur les téléchargements illégaux.
Bah oui, c'est toujours flou, quoi. C'est un peu comme les manifestations. Donc il y a les chiffres officiels, il y a les chiffres de la police, il y a les chiffres des manifestants. Ici c'est un peu pareil, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que, enfin, si on pousse le raisonnement, donc je caricature un petit peu, mais ce qui est drôle, c'est que on pourrait presque dire que le disque, puisque c'est de ça dont on parlait, le fait de sortir un CD, ça devient quasi comme la bande-annonce des concerts et des tournées, en fait. Et donc c'est vrai que les artistes gagnent beaucoup moins sur le disque. Par contre, ça permet de créer une espèce d'appel d'air pour éventuellement dire cette musique me parle vraiment, me plaît beaucoup, et donc je vais aller voir l'artiste en live, quoi. Ce qui est drôle, c'est que, alors je sais que là je prends une position un peu personnelle, mais c'est que historiquement parlant, le but d'un artiste, c'était d'être sur scène, c'était de tourner. Et donc on est dans une vague, en fait, qui permet aux artistes de retrouver un peu l'essence première, ou en tout cas historique, de leur profession, qui était d'être sur scène et de rencontrer le public. Le téléchargement, qu'il soit légal ou peut-être même pas spécialement, qu'il soit illégal ou pas, pardon, permet en fait de palper le marché. Et se dire, tiens, où est-ce qu'on pourrait se produire, où on ne l'a pas encore fait. Donc moi, je le vois stratégiquement comme plutôt une bonne chose d'un point de vue marketing. Ça peut être sympa, comme indépendamment des problèmes peut-être liés à la vie privée et ce genre de choses. Ça peut être sympa pour donner des pistes d'action innovantes. On parle de métal, dont je suis fan. Si on prend Metallica, dont je suis encore plus fan, ils ont joué en Antarctique il y a quelques semaines, qui est aussi un concert tout à fait particulier. C'est le seul continent sur lequel ils n'avaient pas joué. Et ils ont joué devant une petite centaine de personnes, parce qu'évidemment, ce n'était pas évident de mobiliser 50 000 fans là-bas. Mais ça a fait le tour du net. C'était une action qui était sponsorisée. Donc, c'est toute une série
de... C'est un méga coup de pub.
Voilà, c'est toute une série de voies détournées. Et comme mon confrère l'a dit tout à l'heure, Metallica, ils viennent au Pink Pop aux Pays-Bas au mois de juin, et ils viennent à Werther pour la 7e ou 8e fois au mois de juillet cette année. Donc ce sont des appels d'air pour les tournées.
Certains spécialistes estiment que les fans qui ont téléchargé de la musique illégalement sont davantage prêts à dépenser leur fortune, ou en tout cas leurs quelques euros, dans des produits dérivés, ou alors dans des places de concert. Que pensez-vous de ce type d'idée, Thierry Coljean?
C'est évident que quand on voit le succès des festivals, ne fût-ce qu'en Belgique, mais c'est pareil partout en Europe, dans le monde, ça coûte très très cher, ces tickets. Évidemment, les festivals disent, exact, oui, mais vous pouvez diviser par les 100 artistes que nous avons, donc diviser par 100, ça fait même pas 3 euros le 3 ou 4 euros le concert. Oui, mais n'empêche qu'au final du week-end, ça fait quand même 300-400 euros. Tomorrowland, qui a un succès fou, coûte très très cher. Les festivals coûtent cher, mais ce sont des vacances. C'est peut-être les premières vacances pour beaucoup d'ados sans les parents. Ils sortent entre copains, copines, c'est les examens sont finis. Donc forcément, c'est plus que de la musique, c'est un moment de détente. Et c'est vrai qu'on préfère investir là-dedans, ou dans son GSM, ou dans des jeux vidéo, plutôt que dans de la musique, que de toute façon, par ailleurs, on peut obtenir gratuitement en l'écoutant gratuitement. Donc pourquoi aller investir sinon dans un petit abonnement de même pas 10 euros par mois éventuellement.
Fred Colantonio, est-ce que la lutte contre le téléchargement illégal est toujours un combat d'actualité, alors que l'on parle beaucoup aujourd'hui du streaming, et on vient d'ailleurs d'en parler ensemble il y a quelques instants?
Vous savez, au Canada, ils ont cessé les poursuites depuis plusieurs années. Ce qui était amusant, de nouveau, si je fais un petit flashback et que je parle de l'affaire Napster, c'est qu'à l'époque de l'affaire Napster, il n'y avait pas d'alternative crédible de points en ligne qui permettait, si vous voulez, d'éviter les comportements délictueux. C'est une grande phrase, puisque forcément, on pouvait dire aux gens, allez chercher vos CD dans les magasins comme vous faisiez avant. Mais les usages créés par le web ont fait en sorte que, comme l'a très bien dit Thierry, Voilà, la musique, elle est infiniment disponible, elle est à proximité de clics. Donc, pourquoi est-ce que moi, en tant qu'internaute, j'irais encore me déplacer pour enregistrer un CD, acheter un CD, pardon, que je dois après importer sur mon ordinateur pour synchroniser. Enfin bon, toute une série de complications. Tout ça a été levé. Et donc, je crois que la voie des alternatives type Deezer, Spotify et autres, qui doivent encore être monétisées effectivement via la publicité, via d'autres voies, c'est tout à fait crédible. Les premiers à avoir commencé, c'est Apple quand ils ont lancé ce qui était à l'époque l'iTunes Music Store, et qui ont été les premiers à proposer une alternative crédible et légale au téléchargement.
Thierry Coljean.
Oui, c'est vrai qu'en fait, le numérique profite encore à certains artistes. On cite toujours quelques noms. Aujourd'hui, par exemple, Bruce Springsteen met à disposition tout à fait gratuitement la totalité de son album sur Deezer, donc quelques jours avant. Vous allez dire, mais à quoi ça sert encore de l'acheter? Mais c'est parce que son public a un certain âge et son public aime posséder encore un disque. Ils ont la collection complète, donc voilà, lui peut se permettre. On a vu Beyoncé, là c'est différent, parce que Beyoncé a réussi quand même, malgré tout, à vendre du numérique.
Et à gagner de l'argent.
Et à gagner beaucoup d'argent, donc ça fait quand même 400 000 en un jour, 800 000 en trois jours.
C'est pas mal.
En sortant le 13 décembre, alors que l'album physiquement est sorti le 23 décembre. Donc durant 10 jours, on ne pouvait se le procurer que de façon numérique. Et donc c'était payant et ça a marché. C'était quand même 15 euros, c'était pas rien. Mais là, c'était ses fans, le pool de fans. Et puis elle peut se le permettre parce qu'elle est Beyoncé, parce que c'est Springsteen. Mais les artistes, disons, moins un peu de seconde division, mais je dis ça pas péjorativement, peuvent pas se permettre parce que eux, ça rapporte pas assez. Je veux dire, mais même un groupe comme Daft Punk, on s'est rendu compte que Get Happy, qui était le plus téléchargé légalement, des millions de fois, leur a rapporté, je crois même, soit 16 000 ou 17 000 euros. C'est rien par rapport au nombre de téléchargements. Donc les artistes, c'est ce dont ils se plaignent énormément en ce moment, c'est que le streaming ne leur rapporte pas assez. Ça rapporte à quelques gros producteurs, mais il faut vraiment vendre des millions et des millions et des millions avant d'arriver à que ce soit vraiment quelque chose.
Et voilà. Oui,
ce qui est fascinant, très rapidement, si on regarde par rapport à Iron Maiden, c'est l'ex-chanteur d'Iron Maiden, Blaze Bailey, qui lui est un peu en deuxième division, comme l'a dit Thierry. Blaze Bailey se sert des médias sociaux et des moyens de communication actuels pour promouvoir ses tournées. Et donc, il tourne de manière totalement indépendante, beaucoup plus du tout médiatisée. Et pourtant, il continue sa carrière solo de manière tout à fait décente et honorable. Et en tout cas, il arrive franchement à en vivre parce qu'il a bien compris l'intérêt de tous ces canaux numériques pour sa promotion personnelle.
Et voilà déjà pour ce débat d'idées, ce face-à-face autour de cette stratégie ou non-stratégie d'Iron Maiden.
Tout le monde y passe jusqu'à 11h sur la première.